Bonjour à tous les amis et bienvenue dans votre émission Sortez sur Radio Campus. Aujourd'hui, on fait un petit bisou à Chloé qui n'est pas avec nous, mais on pense à elle. Alors, on est aujourd'hui avec Loïc d'Extinction Rébellion. Bonjour Loïc.
Bonjour.
Et comme tous les lundis, nous recevons Alain pour sa chronique littéraire. Je lui laisse d'ailleurs la parole. Bonjour Alain.
Bonjour mon cher Alex. En l'absence de notre chère Chloé,
et oui.
Est-elle en vacances, est-elle en congé?
Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout.
Elle te laisse tout seul aux manettes, mais,
oui,
tu es royalement beau comme un pilote de ligne.
Hein? Beau comme un camion.
Alors auditrices, auditeurs de nos cœurs, bonjour. Françaises, français, belges, belges, public chéri, mon amour, comme il disait. Je ne suis pas n'importe qui et des proches est vivant. Il manque même pas mal à l'esprit qu'on dit français, paraît-il. Faut voir les discours et les têtes de nos gouverneurs. Il faudra voir la gueule du pays quand ils en sont sortis, avec leur bonne retraite, bien sûr. Pierre Desproges nous manque en tout cas, et pas que lui, mais tous ces grands humoristes qui pourfendaient jadis l'air du temps installé de la rémission. Je vous lis ce petit texte, il est celui de la page du 24 mars dans ce petit livre de Desproges que je vais vous conseiller ce soir, La pensée du jour. Journée internationale pour le droit à la vérité en ce qui concerne les violations flagrantes des droits de l'homme et pour la dignité des victimes. C'est fascinant de savoir que des gens éminemment préoccupés du sort de la France, dont l'œil grave et la démarche austère qu'ils ont pour gravir les marches de l'Élysée, nous révèlent à l'évidence l'abnégation, le courage et la volonté qu'ils mettent à poursuivre le combat pour le mieux-être de l'humanité et l'agrandissement de leur gentilhommière. C'est dingue de penser que ces grands serviteurs de l'État sont des mammifères vivipares et qu'ils se reproduisent comme rentemplants en s'agitant frénétiquement sur une créature du sexe opposé, entre un petit déjeuner avec Arafat et un dépôt de gerbes sous l'Arc de Triomphe. Bref, Desproges peut se lire sans honte parce qu'il dépasse le rire de sketch. Sa pensée n'a pas à rougir de la pauvreté d'écriture du premier rigolo qui passe. Pierre Desproges est un penseur qui pense, un penseur poète, une pensée qui se déguste ainsi à la lecture et au temps. La pensée du jour, ce petit livre participe de ses éclats verbaux. Ainsi, pour le mois de décembre, chaque jour a son historique, dans un petit livre de 365 pages donc, laissez-moi vous dire. Égrenons les dates de décembre. Décembre, c'est chez le chrétien moyen les festivités de Noël, ce qui s'étale du 24 décembre au soir, au 25 décembre au crépuscule. Ces festivités sont le dîner, la messe de minuit facultative, le réveillon, le vomi du réveillon, la remise des cadeaux, le déjeuner de Noël, le vomi du déjeuner de Noël et la bise à la tante qui pique. 1er décembre, journée mondiale de la lutte contre le sida. Le bruit court que j'ai le sida, ça m'est revenu de la bouche d'un PD, le bruit, pas le sida, qui le tenait d'un autre PD, le sida, pas le bruit. Ce garçon, le PD de la bouche duquel m'est revenu le bruit, m'a dit que l'autre garçon, le PD qui avait refilé le sida au PD par lequel m'est revenu le bruit, lui avait dit que Ricazaraï, qui est actuellement avec Le Pen, ne le répétait pas, racontait partout que j'avais le sida. C'est dégueulasse. Dieu m'embrasse si possible pas sur la bouche, on ne sait jamais. 2 décembre en 1814, c'est la date de la mort du marquis de Sade. L'usage du vouvoiement peut pimenter les rapports érotiques. Il insuffle langage amoureux, ce que le porte-jartel apporte à son décor, un doux frisson d'interdit. 3 décembre, journée internationale des personnes handicapées. Au royaume des cul-de-jatte, les enculés sont les rois. J'adore celle-là. 4 décembre en 1642, c'est la mort de Richelieu. Madame, si ma robe était de bronze, vous entendriez sonner le tocsin. Richelieu. C'est celle qui te fait le plus rire, toi.
Ouais, je l'aimais bien, celle-là.
Le 5 décembre, c'est la journée mondiale du bénévolat. Il y a des jeunes gens incroyables et bénévoles qui se shootent à l'espoir vrai quand d'autres se fixent à l'héroïne. 6 décembre, c'est la Saint-Nicolas. Je ne suis pas raciste, mais il faut bien voir les choses en face. Les enfants ne sont pas des gens comme nous. Attention, il n'y a dans mon propos aucun mépris pour les petits-enfants. Seulement, bon, il faut voir les choses en face. Ils ont leurs us et coutumes bien à eux. Ils ne s'habillent pas comme nous. Ils n'ont pas les mêmes échelles de valeur. Ils n'aiment pas tellement le travail. Ils rient entre eux pour un oui ou pour un non. Journée mondiale de l'aviation civile, le 7 décembre. Un avion tombe dans l'eau, qu'est-ce qui reste ? 2 steaks tartares pour les dents de la mer. 8 décembre, jour de l'Immaculée Conception. Bernard Palissy mourut à la Bastille en 1589, dans d'atroces souffrances morales. Il avait été enfermé à cause de sa foi huguenote, qui le faisait douter du dogme de l'Immaculée Conception, se gausser du culte des saints et boycotter crânement les processions du 15 août. À une époque où le protestantisme était aussi violemment combattu que la peste noire ou le judaïsme, c'était de la provocation. Avant de rendre l'âme, Bernard Palissy, avec un lyrisme et une richesse de style surprenant, un antipapiste, décrivit brillamment sa propre agonie dans un petit livre intitulé « Palissy, la sortie ». 9 décembre, journée mondiale des Nations Unies contre la corruption. L'ancien policier William Phillips, qui avait récemment dénoncé la corruption de certains de ses collègues, vient d'être condamné à 25 ans de prison pour meurtre. Ça lui apprendra à cafeter. 10 décembre, journée internationale pour les droits des animaux, journée mondiale des droits de l'homme. Tous nous sommes fauchés un jour par le croche-pied rigolard de la mort imbécile, tandis que les droits de l'homme s'effacent devant les droits de l'asticot. Ça, c'est un truc à lire pour se faire rire tout seul dans son lit. Alors, 11 décembre en 1946, c'est la création de l'UNICEF par les Nations Unies. C'est scientifiquement que nous sauverons ces enfants, car il le faut. C'est un devoir sacré. Il faut que ces enfants vivent. Il nous faut leur ouvrir nos bras et nos cœurs. Il nous faut les accueillir maintenant, vite, et n'importe où. Mais pas chez moi, il n'y a pas la place à cause du piano à queue. 12 décembre en 1848, c'est le décret du 12 décembre qui prévoit que le président élu au suffrage universel sera logé aux frais de la République, article 62. Le savoir-vivre est la somme des interdits qui jalonnent la vie d'un être civilisé, c'est-à-dire coincé entre les règles du savoir naître et celles du savoir mourir. Je tourne les pages, vous l'entendez. 13 décembre 1553, c'est la naissance d'Henri IV. Une fois n'est pas coutume, comme t'as si bien dit, Henri IV, le jour où tu sautas ta femme Louise de Lorraine. 14 décembre 1990, les Nations Unies votent une résolution qui légitime le droit d'ingérence humanitaire. D'après les chiffres de l'UNICEF, l'équivalent en riz complet de l'ensemble foie gras pâté en croûte-bûche au beurre englouti par chaque chrétien au cours du réveillon, permettrait de sauver de la faim pendant un an un enfant du tiers-monde sur le point de crever, le ventre caverneux, le squelette à fleur de peau et le regard innommable de ses yeux brûlants levés vers rien sans que Dieu s'en émeuve, occupé qu'il est à compter les siens éructant dans la graisse de Noël et flatulant dans la soie floue de leur caleçon commun sans que leur cœur jamais ne s'ouvre que pour roter.
Wow.
C'est fort, hein. 15 décembre en 1917, c'est la mort de Zamenhof, journée universelle de l'espéranto. Zamenhof, donc Lechzer Ludwig Zamenhof, médecin et linguiste polonais né à Bialystok, 1859-1917, on lui doit l'invention de l'espéranto. Aujourd'hui, Zamenhof repose à l'ombre d'un grand cyprès dans le cimetière juif de Varsovie. Pourquoi au cimetière juif ? Alors que, de notoriété publique, il était plus catholique qu'un essaim d'intégriste. Parce que Zamenhof, jusqu'au bout fidèle à son idéal, avait exigé que l'adresse de sa dernière demeure figurât en espéranto sur le couvercle de son cercueil. Pour un croque-mort polonais, hélas, l'espéranto, c'est de l'hébreu. 16 décembre 1770, c'est la naissance de Ludwig van Beethoven, ou le 17 décembre, c'est pas sûr. Comment ? Point d'interrogation. Signé Beethoven. 17 décembre, alors en 1909, c'est la mort de Léopold II, le roi des Belges. J'ai appris tout petit à comprendre la mouvance émotionnelle de cette errance éclairée de la pensée lyrique qui nous conduit naturellement à laisser prévaloir le sentiment sur la raison et l'imagination fertile sur la froide analyse. Vous me suivez ? Sinon, je connais une histoire belge. 18 décembre, journée internationale des migrants. Les étrangers basanés, il faut l'entendre sortir de la voile. Moi je ne peux pas dire ça parce que j'ai trop de je me bats trop pour mes amis migrants. Mais il faut l'entendre sortir de la bouche de des proches, évidemment. Les étrangers basanés font rien qu'à nous empêcher de dormir en vidant bruyamment nos poubelles dès l'aube, alors que tous les médecins vous le diront, le blanc a besoin de sommeil. Tu ris quand même, hein ?
Bien sûr.
Ouais. Alors, 19 décembre, c'est le jour de la rupture. Je viens de rompre avec Dieu. Je ne l'aime plus. En amour, on est toujours deux. Un qui s'emmerde et un qui est malheureux. Depuis quelque temps, Dieu me semblait malheureux, alors j'ai rompu. 20 décembre, journée internationale de la solidarité humaine. Comment espérer en l'homme ? Peut-on attendre le moindre élan de solidarité fraternelle chez ce bipède égocentrique, gorgé de vinasse, boursouflé de lieux communs, rase bitume et pousse à la fiente ? Cette bête à deux pattes, engoncée dans son petit moi sordide, au point de n'être même pas capable de respecter son chien, l'hygiène publique et les semelles en cuir véritables de mes escarpins de chez Carville à 900 balles la paire ? Ça devait correspondre à quelque chose de l'époque, ça que, je sais pas qu'il en avait après le... Enfin bref. Journée mondiale de l'orgasme, solstice de décembre. Ça, faut le noter, c'est votre journée à tous hein, et à toutes. Hein. 21 décembre, journée mondiale de l'orgasme, solstice de décembre. Les jours rallongent. Il n'y a pas que, dit l'obsédé de la rue Tartarin. 22 décembre, survient l'hiver. Les nouveaux contus la dinde, les nouvelles dindes se zibelinent. Les nouveaux pauvres ont faim, les charitables épisodiques, entre deux bas frais de confidois, vont pouvoir épancher leurs élans diabétiques. 23 décembre, tradition. La tradition du Père Noël remonte par la cheminée. 24 décembre, en 1865, c'est la création du Ku Klux Klan. Quelle est l'origine du mot Ku Klux Klan ? Je sens bien que la question est sur toutes les lèvres. Selon les distingués érudits anglo-hellénistes, Ku Klux viendrait du grec kuklos, cercle, et clan, d'un patois saxon qui signifie famille. Le Ku Klux Klan, en somme, désignerait le cercle de famille. Le papy, la mamie, les petits-enfants, le chien-chien, le timinou, avec autour des barbelés et des miradors à nègres. Bizarre. 25 décembre, Noël, bien sûr. Noël célèbre la naissance de Jésus-Christ, fils de Dieu, venu sur terre pour effacer les péchés du monde. Mais il avait oublié sa gomme. 26 décembre, vieux dicton. Noël au scanner, pas qu'au cimetière. 27 décembre 1822, c'est la naissance de Pasteur. Gloire à Pasteur qui combat les enragés. 28 décembre 1937, c'est la mort de Maurice Ravel. Gloire à Maurice Ravel qui enfanta d'un seul coup du boléro sans manche et de l'adagio d'Albicocco. 29 décembre, pudeur, exigeant une bonne fois pour toutes qu'on habille le petit Jésus dans les crèches. Toute cette nudité, ça fait triquer les pédophiles. 30 décembre, il n'y a pas que les nouveaux pauvres, il y a les nouveaux riches. Pour venir en aide à mes amis nouveaux riches qui crèvent dans leur cholestérol, j'ai décidé d'ouvrir les restaurants du foie. Envoyez-moi des tonnes de verveine et des quintaux de biscottes sans sel, le bon Dieu vous le rendra. Je tourne ma petite page pour arriver au 31 décembre, la Derche. L'année 1987, c'est la publication du livre, comptera une seconde de plus afin de compenser un ralentissement de la rotation de la Terre. Oh, arrêtez le temps, repousser à jamais l'heure inéluctable du tombeau. Mais non, hélas, la Camarde ricane et nous guette sans hâte, tandis que sournoisement, d'heure en heure, nous ne cessons de nous flétrir, de nous racornir, de nous friper, de nous tasser lentement, mais sûrement jusqu'au stade ultime, où les microbes infâmes nous jailliront des entrailles pour nous liquéfier les chairs et nous réduire à l'état d'engrais naturel. Qu'es-tu devenu, toi que j'aimais, qui fus pimpante et pétillante, bouche de fraise et nez coquin? Qu'est-ce que tu fous sous ton cyprès? Qu'es-tu devenu? Oh, je sais. Tu es devenu azote 12%, acide phosphorique 17%, sel de phosphate 31%, âme 0. Arrêtez le temps.
Sûr, faut que je chante mon obadalidi. Au Malidi, tu hantes mes rudes rêves au lit. Dis-tu me séduisante, riant de mes ridis. Culeuse et vaine tenta qui veut de conciliation avec tes tantes, ah, qui veut à te marier avec un marchand de tapis et à Tunis. Ainsi chantait un Italien pisant contre les murs d'un palais de Florence, car ce palais abritait justement la fleur d'amour qui le mettait en transe. Napolitaine aux yeux de firmament, maman m'a dit que c'était plutôt rare. Ben si c'est rare, j'aime mieux les yeux rares de Lydia que le curat de Lucrèce Borgia. Sur fond que je chante mon obadalidi. Séduisante, riant de mes ridis, culeuse et vaine tenta qui veut de conciliation avec tes tantes, active à te marier et avec un marchand de tapis et à Tunis. V'là qu'il a dit aux maladies de foi, mais Saladie est sourde à ses salades d'orange, dit-elle en entrant sous son toit. Au petit matin, après une escapade, elle se dévêt en dansant avec grâce, sans remarquer qu'un vieux voyeur en face fait glotte-glotte avec sa glotte qui tressonne lorsque sort la culotte que l'idiote. Sur faux que je chante mon obadalidi. Mes rudes rêves au lit, dis-tu me séduisante, riant de mes ridis, culeuse et vaine tenta qui veut de conciliation avec tes tantes, active à te marier avec un marchand de tapis et à Tunis. Les lui dit vilain menteur, tu nous salis. C'est vrai que c'est faux de croire que les tentacules, leur mienne, ça c'est une ion ridicule. Qui donc lui a mis cette idée en tête? Ne serait-ce point le marchand de carpette? Si c'est ici que le sadique s'y dit, lui dit qu'il a dit si et lui dit aussi. Sur faux que je chante mon obadalidi. Au palidi, tu hantes mes rues de rêve.
dis-tu, me séduisante, riante, méridie, culeuse et belle tentative de conciliation. Avec tes tantes, qui veut à te marier, avec un marchand de
chacune et un tunis. Ouais, j'ai vu lui sur scène à Bobino, c'était quelque chose de terrible. Il travaillait beaucoup et surtout avec Georges Brassens. Il était souvent dans ses premières parties. Sinon, il était un petit peu ignoré. Puis ignoré des radios, bien évidemment. Alors donc, vous l'avez compris, notre des proches adorés, c'est avec sa pensée du jour. C'est mon conseil de lecture de ce mois de décembre. Mais des proches méritent de faire encore partie des petits cadeaux littéraires, surtout à 7,90€. Ça vaut le coup, hein. Je m'en suis assuré. La boîte à livres diffuse encore et toujours un grand nombre de ses publications savoureuses, qui vous diront peut-être, les titres vous diront peut-être quelque chose. Chronique de la haine ordinaire, La minute nécessaire de Monsieur Cyclopède et autres réquisitoires du tribunal des flagrants délires. Voilà, c'est le cas de le redire, des proches et vivants. Et bien vivant notre invité d'aujourd'hui, qui est-il donc, mon bien, cher
c'est
Alex
Loïc, mais je pense qu'il est apte et pourquoi pas lui laisser la parole pour qu'il nous dise aussi pourquoi il est là aujourd'hui.
Loïc ne donne que son prénom
Après. Oui, il a créé un prénom et c'est déjà pas mal.
Ah
après, oui. Bon, alors bonjour Loïc, rebonjour en tout cas.
Rebonjour.
Alors tu es venu nous parler d'Extinction Rébellion aujourd'hui.
Exactement.
Alors oui, vas-y.
Alors Extinction Rébellion, on est un petit groupe sur Tours, enfin un petit groupe, on doit être une centaine je pense maintenant. Les origines d'Extinction Rébellion, c'est une campagne qui s'appelait Rising Up au Angleterre. Extinction Rébellion était une des campagnes de cette fondation. Je ne sais pas exactement si c'était une fondation ou un... Bon, bref, à approfondir. Bref, Extinction Rébellion est une campagne. Ça a été lancé en 2016. En 2018, il y a eu un lancement public. Ils ont organisé des formations, des rencontres, des conférences. Et donc en France, nous, on a commencé en octobre 2018. Il y a eu ce qu'on appelle la déclaration de rébellion en France. Voilà. À Tours, on s'est groupé rapidement après la déclaration française. C'est-à-dire que fin novembre, on a commencé à se rassembler. On a fait les premières réunions. Et voilà, maintenant on se réunit... De temps en temps, on a commencé à faire quelques actions. Et.
D'accord. Et tu veux dire que c'est une organisation internationale, ce n'est pas qu'en France?
Ce n'est pas qu'en France, non.
Okay. Il y a combien de pays en gros?
Je crois qu'il y a une cinquantaine de pays. Il y a une carte qui existe, mais on est assez nombreux.
Très bien. Et petite question comme ça, est-ce qu'il y a il y a sûrement une ligne de conduite tout de même à respecter? Ou est-ce que par exemple la branche de Tours est libre aussi de créer ses propres actions?
Alors, on est complètement décentralisé. Il y a des discussions qui se font au niveau national, mais à Tours, on n'a pas de chef, pas de leader, okay. pas de porte-parole. Là, je suis là, mais je ne suis pas le porte-parole, j'apporte ma voix à moi.
Il n'y a pas de génération spontanée quand même. Il faut bien un moment où quelqu'un frappe à la porte pour dire « je veux faire partie de votre mouvement ». Comment on appelle ça, un mouvement, un groupe?
C'est un groupe, on n'est pas une association, on n'est pas déclaré comme association loi 1901. C'est un groupe de personnes. Après, les gens, on fait des réunions pour les nouveaux, et ils se présentent et après on fait d'autres réunions où on prépare des choses. Ça peut être de la banderole, mais aussi des actions diverses.
Alors, moi, j'aurais aimé revenir, en tout cas avoir des précisions concernant le choix du nom. Ça peut porter à confusion. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce choix Extinction Rébellion?
Alors, je n'étais pas à l'origine du nom, mais Extinction Rébellion, c'est face aux extinctions des espèces, en fait. Je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais bon, on est un peu tous au courant maintenant qu'il y a une extinction massive du vivant. Et la rébellion, c'est...
C'est la réponse à donner à ça.
Voilà, c'est la réponse nécessaire et urgente à donner à toutes ces extinctions et toutes ces catastrophes qui nous arrivent.
Intéressant d'ailleurs, le logo, il y a un sablier dessus.
Alors le logo, c'est un cercle avec un sablier à l'intérieur qui représente donc le temps qui reste à la Terre, voilà. Qui est donc le cercle.
Donne l'idée de l'urgence.
Voilà.
Et quels sont les principes d'Extinction Rébellion dans les grandes lignes ?
Alors, dans les grandes lignes, on partage la même vision du changement qui est nécessaire. Je vais vous les lire, hein, parce qu'il y en a 10. Et...
trop bien, carrément.
Voilà. Nous ajustons notre mission à la mesure de ce qui est nécessaire. Nous avons besoin d'une culture régénératrice. Nous nous remettons nous-mêmes en question autant que ce système délétère. Nous valorisons la réflexion et l'apprentissage. Nous accueillons chaque personne telle qu'elle est. Nous limitons délibérément les rapports de pouvoir. Nous ne tournons pas de discours moralisateurs ni culpabilisants. Nous sommes un réseau non violent. Et nous sommes un mouvement fondé sur des principes d'autonomie et de décentralisation.
Très bien. Alors, intéressant, culture régénératrice. Qu'est-ce que t'entends par ce terme ?
Eh bien, c'est loin de notre système actuel, en fait, où on met les gens dans une boîte pour qu'ils travaillent et on ne pose pas souvent la question s'ils vont bien. Nous, on se pose la question si on va bien, entre nous, déjà au sein des groupes. Et on essaye de faire en sorte qu'on ait une culture saine et avec des paroles justes, correctes. Et on prend soin des autres, en fait. On essaye de prendre soin des uns des autres. Ça fait un peu catholique comme truc, mais...
Quand on dit culture, c'est la culture de l'écologie mondiale.
De l'écologie, mais aussi c'est pas uniquement écologique, en fait, ça peut être social. Les gens qui ont des problèmes sociaux, ils ont aussi besoin d'être écoutés, entendus et soutenus. Et on est là pour ça aussi, quoi. On n'est pas que un mouvement lié aux problèmes climatiques et environnementaux.
C'est l'écologie avec un grand E au sens large.
C'est ça.
Avec l'humain au centre.
L'humain est au centre. Ouais.
Donc ça implique en fait de revenir en arrière quelque part, en fait une déconstruction aussi pour rebâtir quelque part.
Alors, le retour en arrière, alors... Je parle encore en mon nom, mais pour moi, il va être obligatoire à un moment, vu la baisse de tout ce qui est énergétique, en fait. Enfin, la baisse, elle n'est pas encore visible, mais le pic pétrolier était, selon les chiffres, en 2008. Donc, ça fait bientôt plus de 10 ans qu'on est en baisse d'approvisionnement en pétrole, en fait, en tout cas en profusion. Et je suis en train de me perdre dans un truc, là, redis-moi, s'il te plaît.
L'urgence, tu disais l'urgence.
Oui, c'était le fait de revenir en arrière, en
ah oui.
le mot-clé.
Non, non, on revient pas en arrière, on va de l'avant, mais l'avant, ce sera forcément un retour. On va perdre beaucoup du confort qu'on a actuellement.
Oui, décroissance, quoi.
Voilà, c'est une sorte de décroissance, mais même la décroissance, en fait, je pense que ça va être plus radical que ça. Ça va être une véritable chute à laquelle il faut qu'on s'attende, et c'est pour ça que la culture régénératrice fait partie de nos principes, c'est parce qu'on imagine qu'on aura besoin de soutien et on n'a pas envie de guerre, on n'a pas envie de problématiques nombrilistes. Il va falloir qu'on serre les coudes et qu'on apprenne à vivre avec beaucoup moins.
Alors du coup, nous ou toi, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle en tant qu'individu afin de contribuer à la culture régénératrice, à ton avis ?
Alors la culture régénératrice en elle-même, ben, c'est rester ouvert aux autres, puis à l'écoute surtout. Moi ce que j'aurais pu apporter, c'est peut-être plus du chiffre, à moins que tu veuilles en venir en tard à cette zone-là.
Carrément, après on pouvait un petit peu intervenir sur... Oui, allez, bon, bah, les chiffres, très bien. Oui, si tu as des chiffres à nous communiquer pour nous sensibiliser à l'urgence écologique, c'est super.
Savoir ce que ça touche et à quoi on s'attaque.
Alors, en fait, le problème principal, c'est le réchauffement. Donc, selon la trajectoire actuelle, en 2100, alors, ça dépend des chiffres, mais ça va de 4 degrés à 7 degrés d'augmentation de température sur la planète. Ce qu'il faut entendre dans ces chiffres, en fait, c'est que c'est une moyenne. Si on comprend les océans et la Terre, en fait, on peut doubler ces chiffres. Donc c'est encore une fois là, des scientifiques hein, qui nous le sortent, qui nous sortent ces chiffres, c'est pas nous qui les inventons. Et ça reste quand même minimisé par rapport à la réalité. Enfin, la réalité.
En tout cas, l'enjeu est beaucoup plus important. C'est pas pour faire peur, les chiffres semblent sérieux.
Complètement.
Voilà. Les scénarios, c'est quoi alors? C'est la fonte des glaciers, on en parle souvent. C'est le manque d'eau, la disparition.
Le manque d'eau, la disparition des espèces. Et la disparition des espèces et de la biodiversité, ça amène aussi une grosse problématique au niveau de l'alimentation. Parce que sans insectes pollinisateurs, on n'a pas de quoi se nourrir. Enfin, c'est pas qu'on n'a pas de quoi se nourrir, c'est que les trois quarts des plantes qu'on fait pousser ont besoin de pollinisateurs. S'il n'y a plus de vers de terre, ben, la terre n'est plus aérée. Si elle est peu aérée, ben, il faut le faire à la main ou utiliser des produits particuliers pour redonner la fertilité au sol. Donc c'est un ensemble de choses. Et à quelques degrés supplémentaires, en fait, on perd beaucoup d'espèces. Actuellement, on a énormément d'espèces qui disparaissent. Je crois qu'il y a des espèces par jour qui disparaissent. Donc c'est une catastrophe.
On parle des animaux, on parle des insectes, on parle de la vie animale, c'est ça?
C'est ça.
Ouais.
Tous les jours, enfin, je n'ai pas les chiffres de la disparition des animaux, tous les jours, enfin, des insectes et des animaux, mais c'est une catastrophe. Enfin, on a tous les trois des âges à peu près différents, mais je pense que vous venez tous avoir eu une période dans votre vie où il y avait beaucoup d'insectes sur les pare-brises.
Oui.
Et ben maintenant, c'est...
Beaucoup d'oiseaux,
des oiseaux aussi. Et maintenant, on finit un trajet de 500 km en bagnole, on n'a pas besoin de nettoyer la vitre. Avant, on faisait 50, 100 km. Enfin, moi, quand j'étais jeune, plus jeune, on était obligé de nettoyer le pare-brise beaucoup plus fréquemment. Les pare-brises, les phares de bagnole, c'était flagrant.
Alors, qu'est-ce qui est proposé comme remède à tout ça? Parce qu'on a le sentiment, quand on écoute les actualités régulièrement, comme je le fais, que... les gros paysans, enfin les gros de gros, ont encore raison d'utiliser du poison sur les champs pour faire pousser les récoltes, etc., etc. Puis que les voisins sont là pour se laisser asphyxier, fermer leur gueule.
Alors la problématique agricole, elle est compliquée, elle est pointue. En France, on a beaucoup de... On a un lobby, hein, les FNSEA, les jeunes agriculteurs qui ont un pouvoir sur le... sur les décisions politiques. C'est un des chevaux de bataille parce que c'est un des enjeux principaux, hein, l'alimentation. On pourra ne plus jamais aller travailler, mais on aura toujours besoin de manger et de faire manger nos enfants. Donc la disparition des espèces qui est liée aussi aux pratiques agriculturelles, culturelles peut-être.
Culturel,
ouais, pardon. C'est un des enjeux parce que c'est une grosse perte en fait. Il y a des grosses pertes derrière. Alors, ils ont des moyens, mais ils n'ont pas encore la prise de conscience suffisante ou encore les outils nécessaires pour pouvoir changer leurs pratiques. Ils sont dépendants, enfin, quand je dis ils, les agriculteurs. Conventionnels, hein, sont vraiment très dépendants de tout ce qui est énergie fossile, autant au niveau des tracteurs que des produits phytosanitaires qu'ils injectent dans le sol, ils sont hyper dépendants de tout ça, et c'est dévastateur pour l'environnement.
Ce serait aussi apprendre peut-être à changer notre consommation, enfin manger moins de viande ou des choses comme ça, parce que quand on voit même qu'il y a tellement de céréales en fait qui passent dans pour nourrir les bêtes et après pour les tuer quelque part, en fait ça réglerait aussi un peu la faim quelque part dans le monde de diminuer notre consommation de viande énormément.
Alors la consommation de viande, évidemment, c'est un des gros problèmes. Vous avez entendu parler des feux en Afrique et en Amazonie cet été. Ils sont principalement dus à la déforestation, au feu de brousse et la non-maîtrise des feux, mais c'est dû à l'exploitation forestière. Toutes ces terres en fait, sont utilisées pour faire de l'élevage, principalement. Donc, et tout ça pour exporter à l'autre bout du monde de la viande qui aura été élevée avec des OGM, des matières peu recommandables. Évidemment, l'alimentation, c'est quelque chose qu'on peut faire nous-mêmes au quotidien. On peut diminuer drastiquement la consommation de viande. On vit très bien sans manger de viande. On a des moyens de se nourrir quand même qui sont assez efficaces en France. On ne peut pas se dire qu'on va être en manque de quoi que ce soit en étant végétarien. Et on n'est pas obligé d'être végétarien ou végane non plus.
On ne peut pas parler de ces choses-là non plus en omettant qu'il y a quand même des problèmes de gens qui ne mangent pas à leur faim.
Exactement.
Dans le monde.
Oui. Exactement. Mmh. Mais il y a aussi un énorme taux de gaspillage. Je crois que 30% de ce qui est produit est fini jeté. Entre la production d'une pomme qui n'est pas jolie ou d'un quelque chose qui va avoir un problème de rupture du froid ou quelque chose comme ça. Les transports posent aussi une problématique à ce niveau-là.
Complètement, et les emballages aussi.
Les emballages, c'est tout un ensemble de choses. Mais effectivement, on peut faire des choses de notre côté, mais la grosse problématique, c'est quand même l'industrie de masse. Une des choses que je préconiserais, moi, ce serait vraiment de retourner au local pour la consommation. Essayer principalement d'aller, on va dire, 100 km autour de chez soi pour essayer de trouver le maximum de choses. Alors,
il n'y a pas si longtemps, moi j'avais un grand-père qui était né en 1905, tu vois. Il vivait des produits du jardin. Il y avait un jardin, certes, de 500 mètres carrés devant la maison, puis peut-être l'équivalent derrière, mais qui était cultivé en permanence par le grand-père qui ramenait les poireaux, les pommes de terre, le raisin, tous les produits que ma grand-mère passait à la casserole. C'était...
Alors, Alexandre, tout à l'heure, tu me demandais s'il fallait retourner en arrière. Ça, c'est une des choses qu'il va falloir faire.
Mais c'est un bel arrière, retourner... ça.
Bah, c'est ouais. un bel arrière, c'est enviable, ça. Auparavant, je pense pas me tromper en disant qu'on a tous des grands-parents ou arrière-grands-parents qui étaient agriculteurs.
Mais c'est ça.
Auparavant, les gens, ils étaient une famille de 5, 10 personnes et ils étaient autonomes.
Ceci étant, on voit pas ça au pied des tours dans les villes et dans les ZUP. Hein. Bon,
maintenant, voilà. Ça va être beaucoup plus compliqué. Hein. Pour moi, l'avenir, c'est pas dans les villes. La culture urbaine, c'est très bien, mais je pense pas qu'on arrive à nourrir autant de personnes.
Même avec des jardins collectifs ou des serres, comme on met maintenant sur les toits des maisons, parce que c'est la mode.
C'est une aberration de mettre des choses hors sol, alors qu'on le sol, idéalement, il faudrait plutôt le préserver. On monte en haut d'un immeuble, on voit un stade de foot, on voit un terrain de tennis, on voit des usines, mais pourquoi aller mettre tout ça au sol alors qu'on pourrait les mettre en hauteur?
C'est la bonne conscience des architectes un peu prout-prout, quoi.
Ouais, bon, ça va évoluer, je pense. Est-ce que ça sera pas trop tard Mais bon. Mais effectivement, après, se nourrir maximum chez soi, ça vient aussi sur la nourriture du balcon. Hein, ça fera partie des choses. C'est ça.
Enfin, moi, ce qui me ferait peur, c'est qu'on n'ait plus qu'à bouffer les cons, quoi.
Alors ça, il faut avoir la dent dure.
Alors du coup, pour revenir un petit peu à d'autres choses, est-ce que vous avez des revendications, écrites, j'entends, une espèce de ligne directrice dans les revendications, et aussi quelles actions, du coup, sont mises en place?
Alors, nos revendications, on en a quatre principales, la première, c'est la reconnaissance de la gravité et de l'urgence des crises écologiques actuelles et une communication honnête sur le sujet. En fait, on demande vraiment à ce que les politiques cessent de cacher les vrais chiffres. Hein. L'IPBES, le GIEC, ils nous alertent depuis maintenant très longtemps, mais principalement récemment, là, ils sont alarmistes. Donc, on aimerait bien que les gouvernements prennent en compte vraiment ces chiffres. La deuxième revendication, c'est la réduction immédiate des émissions de gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité carbone en 2025, grâce à une réduction de la consommation et d'une descente énergétique planifiée. 2025, c'est demain. Hein.
Oui.
Ça, c'est très optimiste, cette revendication, mais il demande beaucoup. Il faudra peut-être un petit peu.
Il va falloir faire quoi pour y arriver, alors, en 6 ans?
En 6 ans? Diminuer les voyages en avion, mais en voiture particulière. Oui. Là, j'ai des chiffres pour la réduction des émissions de CO2 pour 2030. Donc, en 5 ans, c'est encore plus court. Donc, diminution des trajets en voiture par deux. Augmenter les transports en commun, les trajets en transport en commun par deux. Les trajets en vélo par 6. Au niveau résidentiel, faire une interdiction au fioul, du chauffage au fioul. Au niveau des biens et services, il faut réduire de 73% notre consommation. Donc les vêtements, les produits emballés, les sodas, enfin tous les trucs qu'on n'a pas vraiment besoin, il va falloir apprendre à s'en passer. Les vols en avion, c'est 72%, moins 72%. Et au niveau de l'alimentation, c'est moins 58%. Qu'il va falloir vraiment diminuer nos consommations, mais dans tous les cadres, en fait, dans tous les milieux, hein, qui nous touchent au quotidien. Je continue sur les revendications.
Eh bien, oui.
Il y en a deux autres que j'ai pas encore.
Allez, pas carrément.
Donc la troisième revendication, c'est l'arrêt immédiat de la destruction des écosystèmes océaniques et terrestres à l'origine d'une extinction massive du vivant. Et la quatrième revendication, c'est la création d'une assemblée citoyenne chargée de décider des mesures à mettre en place pour atteindre les objectifs et garante d'une transition juste et équitable. Donc là-dessus, on se rejoint avec les Gilets jaunes, hein, sur la demande à ce que ce soit le peuple qui, en connaissance des problématiques, essaye de prendre des décisions.
Très bien.
La preuve est fournie tous les jours et aujourd'hui notamment avec l'absence remarquable du président de la République française, M. Emmanuel Macron, à la COP25. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Alors, je ne savais pas qu'il était absent, mais de toute façon, qu'il soit absent ou présent, je ne pense pas que ça change grand-chose.
Il n'y allait pas parce qu'il faisait l'enterrement des 13 militaires tués par un accident d'hélicoptère au Mali.
Alors, il aurait sans doute choqué une partie de la population de ne pas aller aux obsèques de ces 13 militaires.
C'est ça le pire.
C'est une, ouais, non, mais c'est une raison valable. Après, que sa présence, franchement, j'ai pas l'impression que ça change grand-chose.
C'est une raison
valable,
mais enfin bon, l'enterrement se fait quand même. Il y a un ministre des armées, me semble-t-il, et un premier ministre.
Oui, il faut savoir déléguer aussi.
Mais voilà, après, c'est pas Macron, c'est en fait l'engagement de notre pays qui fait peur.
Non, mais parce que celui que j'ai cité, Emmanuel Macron, a voulu se faire passer pour le marionnettiste, oui, du monde entier en matière d'écologie. C'est moi qui arrive, c'est moi qui œuvre là, c'est moi qui vais vous dire ce qu'il faut changer pour que la Terre tourne plus rond demain. Il a quand même dit ça il y a peu de temps. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il basculote. Bon, ben, il va aux Invalides, il va parader, il y a les fanfares militaires, il y a tout ça. Bon, c'est tout. Il doit justifier la présence de la France en Afrique aussi. Hein.
Complètement, voilà. Mais c'est un homme politique. Il peut dire tout et son contraire.
Il n'a pas le droit. Moi, je lui dis.
Ah non, il n'a pas le droit, mais malheureusement, il le fait comme ça. Sa porte-parole a décidé de... je ne sais plus comment elle s'appelle, mais... Elle a ouvertement dit qu'elle était prête à mentir pour lui, donc que ses sous-fifres mentent, ça prouve bien que lui se fiche un peu de sa propre parole. Il a été effectivement, il a sorti « Make the planet great again » pour contrer un peu les bêtises de Trump. Ben, en fait, il est pas loin de donner autant de bêtises par ses inactions, en fait. Mmh.
Alors, vendredi dernier, si je ne m'abuse, nous recevions Mathias de ANV COP 21. Vous aviez, pour le Black Friday, organisé la soirée des alternatives ensemble. Du coup, Extinction Rebellion était co-organisateur. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur l'événement ? Comment ça s'est passé, tout ça ?
Alors, l'événement en lui-même, il était suite à la marche pour le climat des jeunes.
Ouais.
Qui avait lieu dans l'après-midi. Extinction Rebellion a mené une action de désobéissance civile non violente à 16h30 aux Galeries Lafayette. On a fait un die-in, en fait, hein, on fait les morts par terre, histoire de faire des belles images et de montrer que les gens nous enjambent facilement sans se poser de questions qui est par terre et pourquoi on est là. Alors voilà, ça c'était aparté. Et ensuite la soirée des alternatives, donc il y avait une sorte de soupe populaire, des prises de parole, il y avait un atelier de gratuité. Moi, je pense que Mathias vous a parlé de tout ça vendredi. C'était bien sympathique.
Super. Alors du coup le 21 décembre on vous retrouve, se tiendra une formation à la désobéissance civile à Tours.
Exactement. Alors ça fait partie des formations qu'on essaye de mettre en place. Alors quand je dis on, c'est surtout qu'on essaye de suivre, en fait, pour pouvoir participer à des actions, il vaut mieux être formé. Et on apprend les gestes à faire, à ne pas faire, une manière de se positionner face à la violence, en fait. Essayer de trouver le curseur par rapport à notre propre définition de la violence. Savoir si une action on la trouve violente, non violente, si on la ferait pas, enfin ça c'est une base des exercices qu'on fait sur place. Et donc c'est une formation essentielle, je pense, quand on veut agir sur des actions de désobéissance civile. Il n'y a pas que Extinction Rébellion hein, qui participe à ces formations. Il y a NVCOP21. Enfin, tout le monde peut participer à ces formations. Et, au contraire, même les Gilets jaunes, tout le monde est bienvenu en fait. Hein.
La question que je me pose quand même, c'est que si vous n'avez pas de remontée par les circuits politiques en place, à savoir la députation, les représentants du peuple qui atteignent le gouvernement et la tête, le chef de l'État, est-ce qu'on est efficace totalement ou est-ce qu'on amuse un peu la galerie en sachant très bien que de toute façon, le gouvernement ne tiendra compte de rien du tout, puisque ce n'est pas lui qui a déclenché son opposition.
Alors, en Angleterre, en fait, suite à une semaine de rébellion qu'ils ont fait au mois d'avril, il me semble, ils ont bloqué des ponts à Londres, une dizaine de ponts pendant... Enfin, pas une dizaine, mais plusieurs ponts, je ne sais plus combien, mais pendant une dizaine de jours. Et suite à cela, l'Angleterre a déclaré l'urgence climatique. Donc, effectivement, on peut donner l'impression d'amuser la galerie, mais quand les cibles sont bien choisies, là, en l'occurrence, ils ont bloqué une grosse partie de la zone économique de Londres, et ça a vraiment posé problème sur place.
Je parle de la France, moi, je parle
pas de Mais en France, on a essayé de faire un peu la même chose pour la rébellion internationale qui s'est passée en octobre. On a pris une place, en fait, la place du Châtelet à Paris a été bloquée pendant un mois, une semaine. Moi, ça, c'est, je rentre dans mes fantasmes.
C'était terrible.
Effectivement, ce n'est pas suffisant, mais c'est une phase de mise en alerte, en fait, l'Extinction Rébellion. On a une stratégie d'escalade. Pour l'instant, on est bien gentil, on est mignon, on fait des actions de désobéissance civile. Ça discute, on ne sait pas où on ira plus tard, mais pour l'instant, on reste gentil.
Si la rébellion suffit pas, est-ce qu'on peut aller est-ce que vous avez l'esprit révolutionnaire?
Alors révolutionnaire, on n'a pas encore dans l'idée de couper les têtes, mais
on n'est pas obligé.
Il y a des révolutions plus faciles, plus pacifistes. Effectivement, il y a beaucoup à faire. Et pour l'instant, on est dans la stratégie de non-violence. Donc,
est-ce que vous avez des élus du peuple extinctionniste?
Alors, on a
anti-extinctionniste
pas...
plutôt.
Contre l'extinction, oui. je ne crois pas qu'il y ait d'élus qui se présentent comme faisant partie d'Extinction Rébellion, mais par contre, on a des politiques qui nous soutiennent, des politiques et des anciens politiques qui nous soutiennent ouvertement ou non. Il y a du monde d'Extinction Rébellion qui a réussi à convaincre quand même quelques politiques.
Surtout les politiques locales peut-être, les
mais même au niveau national.
À l'échelon local, départemental, national, oui.
L'échelon national, on a une ancienne députée vert qui était à l'Union européenne aussi qui est venue pour la déclaration de rébellion en novembre. Alors je me souviens plus de son nom, mais c'est quelqu'un qui a décidé d'arrêter la politique parce qu'elle a bien compris que ça mènerait... Pardon ?
Par écœurement.
Bah parce qu'elle a bien vu que ça c'était pas suffisant. Moi, je suis un peu triste que ce genre de personne lâche la politique complètement, mais bon, elle lutte d'une façon différente maintenant.
Non, on peut apporter au contraire d'autres armes au combat. Quand on est au sein d'une chambre des députés, un seul homme se lève et il prend la voix de Victor Hugo, il prend la voix de Jean Jaurès. On doit l'entendre quand même. On n'est pas plus con qu'il y a deux siècles.
On n'est peut-être pas plus con, mais il y a beaucoup plus d'infos qui passent. Et je ne sais pas si vous avez vu récemment combien, à quelle vitesse ils ont voté des amendements. La personne qui faisait voter, elle ne levait même pas la tête pour voir le vote à main levée. Tout va très vite maintenant. Et je pense qu'il y a des gens quand même qui ont des choses intéressantes à dire, politiquement, écologiquement. Il y a des choses qui sortent, mais tout est tellement balayé d'un revers de la main le lendemain. Vous voyez, là, Macron ne va pas au... La COP25, c'est pas un mini événement, il y a quand même des personnes qui sont mortes. Mais le lendemain, on aura oublié que les militaires ont été enterrés et on aura oublié la COP25 également.
C'est pas que 13 morts qu'il y aura plus tard quand on n'aura plus de quoi réagir au désastre planétaire.
Hein. C'est maintenant qu'il faut réagir, exactement.
Et puis Extinction Rébellion, ça peut se jouer par rapport aux hommes politiques qu'on a aujourd'hui, qui sont des dinosaures. Qui nous prétendent être la démesure de la révolution politique et tout, mais c'est des sacrés cocos qu'on a au pouvoir là. Il va falloir se les farcir. Donc il faut leur extinction, mais pour leur extinction, il faut notre rébellion aussi, parce que ça va passer par les urnes.
Complètement. Évidemment. Alors ça va passer par les urnes, mais ça va aussi passer par des manifestations, des grèves. Jeudi prochain, il y a une grève générale, Extinction Rébellion fera partie des gens qui vont manifester. Il y a une convergence des luttes qui arrive et je pense que j'espère qu'on va finir par être entendu avant qu'on soit obligé de couper des têtes.
Eh bien, malheureusement, je vais devoir vous couper malgré que je sois très.
Ah ben, nous sommes arrivés à une conclusion très.
Nous sommes arrivés à une conclusion. J'ai senti la perche et je l'ai prise tout de suite. en tout cas, merci beaucoup Loïc d'avoir participé à l'émission.
Merci Loïc.
Et bien, merci à vous de nous avoir accueillis.
Et bon courage, bon combat et grossissez vos rangs, élevez vos voix.
Sensibilisez les gens à votre.
Sortez les piques et les fourches s'il le faut. Mais...
Alors avant ça, j'aimerais juste demander aux gens qui sont sensibles aux causes qu'on a évoquées aujourd'hui de nous rejoindre. Et ne pas attendre la semaine prochaine. Ce soir, il y a à l'Oxford Pub, on se retrouve à 19h30 pour discuter de manière informelle. Mais s'il y a des nouveaux qui veulent se joindre à nous, vous serez les bienvenus.
Oh bien. Et surtout, du coup, voilà, sur Facebook, c'est très très simple. C'est Extinction Rébellion Tour, la page, pour rentrer en communication avec vous, tout ça.
C'est ça.
Eh bien, merci beaucoup. On se quitte sur US3. La musique s'appelle Tuckayot Rhythm. Allons-y.
Long life and I live. Mommy, all up and up. Mommy, 6 foot two. Mommy, come in and dance and mommy do it for you. Cooler, cooler than ice. Nicer, nicer than breeze. Ready for the nice of an in the dance because you know me do with the ease. Father man a one, father man a two, father man a two, father man a three and four. Cause you know so the talk of you make comfy. Knock on your door. Enough for the girls, them a days, them just a like homie chat. Cause I'm ready man blues, ready man blues, ready man blues, ready man dad. Wa-da-da-dang-da-da-dee. Then the young man a come figure them problem. Wa-da-da-dang-da-da-dee. Watch me.
Désolé les amis, je vais être obligé d'écourter cette musique pour passer à l'agenda. Somme toute, c'est très dommage, mais bon, allons-y. Alors au cinéma studio à 19h30, projection du film Les Deux Timides, film de René Clair, film de 1928, France noir et blanc. Au musée des Beaux-Arts, l'orientalisme dans les collections du musée, courant si présent dans la peinture française du 19e au début du 20e siècle. À cette époque, l'orientalisme influence tous les domaines artistiques. Demain à 11h, concert des élèves du conservatoire de Tours, rue de Bordeaux. Demain au Palais des Congrès de Tours, Forever. Ce spectacle rythmé et vibrant vous fera revivre l'univers du King, seul spectacle approuvé par la famille Jackson. Et voilà, on se quitte avec Hello Vietnam, musique tirée du film Full Metal Jacket, très grand film. C'est une musique de Johnny Wright. Au revoir les amis et merci beaucoup d'avoir écouté cette émission.
Campus Tours 99.5
et sur internet radiocampustours.com.